Bonjour à tous, vous le savez, la Coupe du Monde de football débute le 14 juin prochain en Russie. Le premier match va opposer l'équipe de Russie à celle d'Arabie Saoudite. L'équipe de France jouera le 16 juin face à l'Australie. Alors pour évoquer cet événement incontournable qu'est le Mondial de football, j'ai le plaisir d'être avec Clément Turpin qui est avec nous en studio. Bonjour Clément.
Bonjour.
Alors les amateurs de football vous connaissent bien, vous êtes arbitre et vous êtes aussi et surtout bourguignon. Vous travaillez d'ailleurs encore je crois avec la Ligue de Bourgogne de football.
Bourgogne-Franche-Comté maintenant.
Bourgogne-Franche-Comté de football. Et avec vos assistants Nicolas Danos et Cyril Gringor, vous serez le seul arbitre français à officier pendant ce mondial. Vous n'avez pas le programme encore hein, des matchs que vous allez arbitrer je crois.
Non tout à fait. On aura l'occasion quand on arrivera sur site le 3 juin prochain, d'avoir un peu plus de détails, mais surtout la liste des matchs ne seront connus que 48 heures à l'avance.
Et vous avez, alors c'est la première fois que vous allez officier pour une Coupe du Monde, hein, je crois.
Oui, exactement, ça sera ma toute première.
Vous aviez déjà officié pendant l'Euro 2016, bon c'est une grande fierté pour vous, hein, je suppose. C'est l'aboutissement d'un rêve peut-être.
À la sortie de l'Euro, on s'était fixé des objectifs. Je m'étais fixé des objectifs avec mes deux camarades, Nicolas et Cyril, parce qu'on parle souvent qu'à un arbitre français, il n'y en a pas qu'un, on sera trois.
Et faut pas oublier les deux arbitres.
Exactement, parce que c'est avec eux qu'on a vécu tous ces moments de qualification, ces doutes évidemment, et puis cette joie là, il y a quelques temps d'apprendre qu'on faisait partie de la liste finale.
La liste finale, donc l'aboutissement pour participer à cette Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a une préparation spéciale quand on, par rapport au match de Ligue des Champions ou au match de Ligue 1, est-ce qu'il y a une préparation spéciale quand on a arbitre FIFA et quand on va officier en Coupe du Monde?
On est effectivement énormément suivi sur l'ensemble des paramètres de la performance, en fait, que ce soit sur la partie athlétique. On reçoit des programmes d'entraînement par nos préparateurs physiques à la FIFA.
Un programme d'entraînement pour un arbitre, ça ressemble à quoi?
C'est très similaire finalement à un entraînement de joueurs. Mmh. C'est de l'entraînement tous les jours, à base de vivacité, à base d'endurance, à base d'explosivité, d'intermittent pour les plus spécialistes. Donc il y a énormément de similitudes du quotidien, puisque c'est 5, 6, 7 entraînements par semaine, en plus du match en semaine ou le week-end.
C'est très intense.
Du suivi médical, parce que c'est une part importante finalement de la performance.
Bah oui, parce que vous dépensez pratiquement autant que les joueurs eux-mêmes. Hein. Vous les suivez sur le terrain forcément.
Ah, il faut savoir qu'un arbitre aujourd'hui fait entre 11 et 13 km par match, qui équivaut à, pour les connaisseurs, à ce que fait un milieu de terrain. On est exactement sur le même volume de kilomètres parcourus.
Et en fractionné avec des accélérations, des
accélérations et tout. Exactement.
Alors on va parler de l'assistance vidéo, on en parle beaucoup depuis un an parce qu'elle a été expérimentée pendant un an en France sur certains matchs de Coupe de France et de Coupe de la Ligue. Là sur cette Coupe du Monde 2018 en Russie, elle sera utilisée sur tous les matchs. Hein.
Exactement.
Qu'est-ce que ça change pour vous concrètement? Alors on l'a déjà vu, faut vous consulter l'arbitre vidéo qui est situé, on peut peut-être rappeler rapidement pour les personnes peut-être qui ne sont pas experts de football. Quand vous avez un doute, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Mais quand vous avez un doute, vous consultez l'arbitre vidéo situé dans l'enceinte du stade, ailleurs dans l'enceinte du stade.
Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Et c'est bien qu'on en parle. Ce n'est pas en cas de doute. L'arbitre du centre, l'arbitre de terrain, continuera à prendre les décisions en live, avec son feeling, avec son instinct, avec son positionnement. Il prend la décision. Et d'aventure, si sa décision était clairement erronée, si cette décision prise était clairement une erreur, et le mot clair est important.
Mais qui dit que la décision est clairement erronée?
Nos collègues qui seront dédiés à l'arbitrage vidéo, en cas d'erreur claire et manifeste, interrogeront l'arbitre pour lui demander si, éventuellement, il voudrait revoir les images. Et à ce moment-là, l'arbitre pourrait revenir sur sa décision, sachant que le processus final, l'arbitre au centre est au départ, et à la fin.
Donc c'est vous, l'arbitre principal, enfin c'est l'arbitre vidéo qui demande à l'arbitre principal, est-ce que vous êtes sûr de cette décision, est-ce que vous ne voulez pas consulter la vidéo?
C'est exactement ça, c'est-à-dire que l'arbitre principal prend sa décision, et en cas d'erreur claire et manifeste, il a la possibilité de retourner voir les images, pour à la fin prendre la décision finale.
Mais est-ce que l'arbitre principal, comme vous êtes, comme vous, est-ce que vous avez aussi, quand vous avez, est-ce que ça peut arriver que vous ayez un doute, vous avez envie de revoir l'image, revoir la vidéo, ou de consulter l'arbitre vidéo? Est-ce que vous avez la possibilité de dire à l'arbitre vidéo, tiens, là j'aimerais voilà, consulter rapidement sur cette action précise? Est-ce que c'est possible ça aussi, que vous fassiez, que ce soit une initiative de votre part?
Alors, je répète, l'arbitre prend sa décision, siffler ou pas siffler, parce que le fait de ne pas siffler est une décision. Je décide de ne pas siffler. Et si, d'aventure, c'est une erreur qui est claire et évidente, alors le processus d'ouverture de la vidéo s'enclenchera. En cas d'erreur claire et évidente. J'appuie ces mots parce qu'ils sont au cœur du dispositif.
Alors, cette assistance vidéo, elle a mis beaucoup de temps à venir. Hein. Elle est utilisée depuis très longtemps dans le rugby. Là, elle arrive enfin maintenant dans le football. Elle a suscité beaucoup de débats, beaucoup de passions, et que certaines personnes qui disent que l'arrivée de l'arbitrage vidéo, c'est certains le disent, hein, je les cite, que c'est la mort de l'arbitrage. Pourquoi selon vous on a mis autant de temps dans le football à arriver à l'arbitrage vidéo, l'assistance vidéo?
Tout d'abord, on prend souvent en comparaison avec nos collègues du rugby, mais le rugby n'est pas le foot.
Bien sûr.
Le jeu n'est pas le même. Le rythme de jeu n'est pas tout à fait le même. Aujourd'hui, on a un outil qui permettra d'amener un petit peu plus de justice sur le terrain en cas d'erreur claire et évidente. On trouve que c'est quand même un outil qui permettra aux arbitres d'être aidés. Donc tant mieux.
Et elle semble, d'ailleurs, c'est un outil qui semble être reconnu, d'ailleurs, parmi les détracteurs de l'assistance vidéo. Les personnes qui étaient détracteurs avant de l'arbitrage vidéo semblent reconnaître qu'aujourd'hui, c'est un outil intéressant, en tout cas.
Prendre le cas d'un cas concret pour les auditeurs. Un joueur marque un but en position de hors-jeu. Aujourd'hui, grâce à cet outil-là, on pourra revenir sur la validité du but. Et donc, quelque part, mettre un peu plus de justice au cœur du terrain. Donc ça, on peut tous être convaincus que c'est une bonne chose. Là est l'intérêt de cet outil-là.
Il y a aussi l'assistance vidéo va être accompagnée de la Goal Line Technology également, qui a été mise en place déjà il y a quelques temps.
Oui, tout à fait.
Peut-être rappeler en quoi ça consiste, la Goal Line Technology, en quelques mots.
La Goal Line Technology est un système qui permet d'informer l'arbitre lorsque le ballon pénètre entièrement dans le but.
Qui passe la ligne de but.
Exactement. Lorsque le ballon passe entièrement la ligne de but, l'arbitre reçoit sur sa montre une information indiquant que voilà, le ballon a bien pénétré dans le but.
Donc c'est un système qui est vraiment... qui est mis à part de l'assistance vidéo. Là, on est.
Oui, effectivement.
Les deux systèmes sont séparés.
Les deux systèmes vont se rejoindre parce que oui. Là, on va utiliser finalement la caméra qui va être utilisée pour savoir si le ballon franchit ou non la ligne de but. On va aussi pouvoir l'utiliser maintenant sur d'autres choses. Mais la Goal Line Technology était utilisée depuis 2, 3, 4 ans peut-être sur les championnats européens et français.
Et l'assistance vidéo, du coup, dont on vient de parler, elle est mise en place donc, sur tous les matchs de cette Coupe du Monde de football 2018. Elle a été adoptée, je crois, après un an d'expérimentation. Elle a été adoptée par, comment ça s'appelle, la commission internationale, justement, qui régit...
Le board, c'est ça. Le board étant la commission qui gère les lois du jeu, les règles du foot. Et après un an et demi d'expérimentation, 2 ans d'expérimentation, ils ont donné l'accord pour les associations qui le souhaitent de pouvoir utiliser ce nouvel outil.
Et du coup, On retrouvera l'assistance vidéo dans les matchs de Ligue 1, sur tous les matchs de Ligue 1, sur tous les matchs de Coupe de France et de Coupe de la Ligue pour la saison 2018-2019.
Effectivement, voilà, c'est une décision qui a été prise par la Ligue de football professionnelle d'utiliser sur le championnat de Ligue 1 cet outil-là.
Alors, on va revenir au niveau local maintenant, hein, en Bourgogne. Là, il y a la fin de la saison de Ligue 1 qui approche. Nous, on suit beaucoup ici chez Cassis FM un club qui s'appelle le DFCO. Alors, sans trop prendre parti, qu'est-ce que vous pensez justement de ce club qui fête ses 20 ans d'ailleurs cette année, 12e de Ligue 1 ces jours-ci. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent rêver d'aller plus loin ?
Bah, sans prendre de parti, évidemment. Je suis arbitre. Moi, je trouve que le club du DFCO fait une très bonne saison, tout à fait correcte. Je ne connais pas les objectifs en interne du club, mais je suis persuadé qu'ils auront à cœur de finir le championnat comme les 19 autres équipes de la meilleure des façons. Ils ont sans doute pas la même pression de la relégation que d'autres équipes avec lesquelles ils concourent. Voilà, je pense qu'ils vont aborder cette fin de saison avec de la sérénité, je pense.
Après, parce que maintenant, ils sont assurés d'être...
Jusqu'où ils iront, ça, on verra ça au soir de la 38e.
Qu'est-ce qui leur manque, selon vous, pour essayer de viser, pourquoi pas, les premières places, les places européennes?
D'une part, j'ai pas à répondre à cette question-là. Je suis pas assez expert, vous savez. Hein. Moi, je reste sur les responsabilités qui sont les miennes, à savoir diriger les rencontres de foot. Et croyez-moi, c'est déjà beaucoup de travail comme ça.
Pour finir un peu avec le sourire, Clément Turpin, alors je sais que c'est pas votre cas, mais comment est-ce qu'on peut expliquer cette mode des arbitres de se raser le crâne? On a un petit peu parlé sur internet, sur les réseaux sociaux. Bon, c'est le cas d'Anthony Gauthier, de Tony Chaperon, de Laurent Duhamel, bon, qui est ancien arbitre également.
Oui, alors là vous me posez une question. Vous avouez que j'ai pas réfléchi. Non, j'en sais rien. C'est peut-être à la mode. Je sais pas. En tout cas, moi, je garde les miens. Je suis très content avec.
Merci beaucoup, Clément Turpin. Donc, rendez-vous du 14 juin au 15 juillet pour la Coupe du Monde de football en Russie et puis également sur les terrains de Ligue 1 l'an prochain.
Merci. Au revoir.